Si vous êtes d'accord, les enfants, je vais d'abord vous parler à vous. Pourquoi ? Parce que vous comprenez beaucoup plus vite. Vous êtes d'accord ? Eux, là derrière, les adultes, ils ont besoin de réfléchir trop longtemps pour comprendre ce que je veux leur dire. Donc je vais vous parler à vous, comme ça après vous pourrez aller jouer tranquillement et je vais tout reprendre tranquillement avec eux, histoire qu'ils comprennent bien. D'accord ? On fait ça ? Alors, moi qui suis aussi maintenant un vieux, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut parler et comment est-ce que je peux savoir ce que c'est le sujet donc de la guérison ? Vous avez déjà entendu parler de la guérison, les enfants ? Non ? Alors, oui ? Ah, il y en a un qui a suivi, c'est bien. Alors, pour essayer de trouver comment vous en parler, j'ai simplement demandé à mes enfants, qui sont cachés quelque part, je ne sais même pas où ils sont. Ils sont... Non, mais c'est pas grave, laisse-le, ils peuvent... Donc, j'ai demandé conseil à, bah tiens, Chloé qui est là-bas, qui se cache discrètement, et d'autres. Mais la guérison, c'est quoi ? Alors, pour répondre à cette question, Rose m'a dit, mais c'est simple, papa. La guérison, c'est quand on aide quelqu'un à aller mieux. Quand quelqu'un est malade, on l'aide à aller mieux. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc là, je lui dis, mais ça tombe bien. Moi, je suis un docteur. Est-ce que les docteurs, c'est pas ce qu'ils font d'aider les gens à aller mieux ? Oui. Pas toujours, hein ? On va pas parler des vaccins, on va pas parler de tout ça, hein ? C'est un sujet de toute façon qu'on préfère éviter, on est d'accord. Ok. Donc là, j'ai dit, ok, bien, on peut guérir alors grâce aux gens qui nous soignent. Ça, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut guérir autrement ? Et là, Chloé m'a dit, ben oui, on peut guérir par les miracles. Alors ça, c'était quelque chose quand même qui n'était pas banal. Vous savez ce que c'est un miracle ? Toi, tu sais ? Dis-moi ce que tu penses.
En fait, c'est quand quelqu'un, par exemple,
qui
n'arrive plus à marcher,
et puis il y a quelqu'un qui le refait marcher. Eh ben, c'est exactement ça, et en un peu plus détaillé, c'est même quand quelqu'un va le refaire marcher, et quand ce quelqu'un, c'est Dieu. Regarde, je te donne la réponse que m'a donnée Chloé. Bah, Chloé, tu peux rester là parce que beaucoup de réponses viennent d'elle. C'est quand Jésus répond à notre prière. C'est quand c'est lui qui guérit. Ça veut dire que c'est pas quand c'est le docteur qui m'a soigné. C'est pas quand c'est l'infirmière qui m'a fait les pansements. C'est pas quand c'est la manipulatrice radio qui m'a fait des belles radios et ensuite je sais ce que j'ai comme maladie. Mais c'est quand c'est Jésus qui m'a guéri. Et pourquoi est-ce que Jésus peut guérir ? Alors, je vais pas vous poser la question à chaque fois puisque je sens déjà Philippe qui me regarde avec beaucoup de pression. Mais... Et je lui ai dit, ok. Alors, est-ce que c'est possible que les miracles, la guérison et les miracles, est-ce que c'est possible que quand Jésus est guéri ? Et ben là, pour le coup, Chloé m'a dit, oui, c'est seulement possible quand c'est Jésus qui est guéri. Pourquoi ? Parce que Jésus, il est Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre que Dieu peut guérir en faisant des miracles, les enfants ? Toi, tu sais te guérir sans faire en faisant les miracles ? C'est vrai ? Alors dis-moi, c'est qui peut guérir ? Maman et papa, mais je suis tout à fait d'accord, ça c'est une excellente... Qu'est-ce que je peux répondre à ça ? C'est maman et papa, bah toi tu as très bonne réponse ma chérie. Et donc, si Jésus est Dieu, seul Dieu peut faire des miracles. Dieu, c'est Jésus, Jésus est Dieu, d'accord ? Ça vous l'avez compris facilement, vous, c'est pour les autres que je répète, je le redis. Mais alors là je demande, mais ok, on part du principe, Jésus guérit les malades parce qu'il est Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça, les enfants ? Dis-moi. Alors ça, j'ai envie de te dire, c'est la finalité des finalités, c'est pour qu'on soit avec lui au ciel, au paradis, tout à fait. Mais il le fait aussi, et ça c'est William qui m'a donné la réponse, merci William, il m'a dit, bah, c'est tout simple, s'il nous guérit, bah, c'est parce qu'il nous aime. Ah bah oui, bah, c'est une bonne réponse, vous ne trouvez pas ? Quand vous aidez quelqu'un, c'est pourquoi ? C'est parce que vous l'aimez. Vous aidez les gens que vous n'aimez pas ? Ah, c'est une question piège, celle-là. Hein ? Parce que lui, Jésus, il a même aidé des gens qui ne l'aimaient pas, lui. Lui, il les aimait, mais eux, il ne l'aimait pas. C'est une autre histoire, je reviendrai peut-être pour ça. Alors, est-ce que c'est encore possible, vous pensez, les enfants ? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, Jésus peut encore guérir des gens ? Unanime. Je suis sûr que si je demandais aux vieux, ils ne diraient pas ça comme ça. Mais j'irai avec eux plus tard. Oui. Et pourquoi est-ce que c'est encore possible ? Ça, c'est Chloé qui m'a dit, ben oui, c'est possible, papa. C'est possible parce que Jésus, il est où ? Il est encore avec nous. Exactement, elle m'a donné la même... Comment tu t'appelles ? Léna a eu la même réponse que Chloé. Merci, Léna. C'est parce que Jésus est dans notre cœur. Et je lui dis, mais attends. Moi, on m'a dit qu'il est monté au ciel, non ? Comment ça se fait que Jésus, il est dans notre cœur et il est au ciel en même temps ? Et là, Chloé, elle m'a dit, mais non, mais c'est normal. C'est parce que c'est son esprit qui est dans notre cœur. Il nous a laissé son esprit avec nous et c'est pour ça que Jésus peut encore guérir aujourd'hui. Vous êtes d'accord les enfants avec tout ce que j'ai dit? Vous avez vu, vous êtes les seuls qui répondez. Ça veut dire que les autres se considèrent plus du tout comme des enfants, mais ça c'est sage. Alors, comment est-ce qu'on guérit les enfants? Là je demande à Chloé, et Chloé elle me regarde et me fait « Je pense que pour guérir par un miracle, il n'y a pas 36 solutions, il faut demander à Dieu. » Et alors je lui dis « Mais comment est-ce qu'on demande à Dieu ?» Ben, c'est simple, hein Chloé? T'inquiète, je te demanderai pas de parler. Je lui dis « C'est quoi ?» Eh ben franchement, c'est ta future plus proche copine. Exactement. Chloé a dit, ben c'est très simple, il faut prier. Parce que prier, c'est quoi? Prier, c'est parler avec Dieu. C'est lui dire ce dont j'ai besoin. Donc, on arrive au bout, les enfants, vous allez pouvoir y aller parce que vous avez déjà tout compris, je le sais. Qui peut prier? Le malade lui-même peut prier. Vous êtes d'accord? Si vous avez mal quelque part, si vous n'allez pas bien, si vous avez envie de vomir, bah vous avez le droit, avant d'aller voir le médecin, de prier, parce que probablement vous n'aurez plus besoin de venir me voir, ce serait bien ça, non? Et est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un d'autre? Exact. On peut prier parce que si on aime quelqu'un et qu'on veut du bien pour lui, on peut prier pour lui aussi. Donc la conclusion pour les enfants, je sais que ça fait beaucoup à digérer les adultes. Concentrez-vous, je vais vraiment reprendre le temps tout à l'heure. Donc les enfants, la guérison, en résumé, c'est très simple. La guérison, c'est déjà de savoir que Dieu peut faire des miracles, d'accord? La deuxième chose, c'est de savoir que nous, on peut lui demander de guérir et de faire des miracles, d'accord? Et la dernière chose à savoir, c'est que Dieu veut faire des miracles et il veut guérir. Donc les enfants, maintenant que vous allez pouvoir aller jouer, n'hésitez pas. Si quelqu'un va pas bien, si vous, vous allez pas bien, vous pouvez demander à Dieu et lui, il va vous répondre, d'accord? C'est bon pour vous? Je peux passer aux anciens? Non? Tu peux rester si tu veux, mais ça va être vraiment basique. Hein. La suite, ça va être très très basique. Hein. Donc tu vas un peu t'ennuyer. Hein. Bon, je vous les rends, sauf si vous voulez les laisser. Moi, ils sont bien avec moi. Bon, les adultes, je suis désolé, je vous ai fait un peu attendre. C'était effectivement un peu c'est ardu comme concept, et je sais que certains probablement se disent, c'est ardu surtout parce que c'est des bêtises. N'est-ce pas? Mais bon, je reviendrai sur cette question plus tard. Alors déjà, je voulais me représenter parce que je ne m'appelle pas Benjamin, pour ceux qui auraient manqué. Donc comme vous l'aurez compris, effectivement, j'ai un frère qui s'appelle Benjamin, qui est bien plus fameux que moi, mais qui n'est pas là. Donc vous vous contenterez de moi, et j'espère que ça vous suffira. Alors je suis marié, j'ai donc 4 enfants, qui m'ont beaucoup aidé pour ce message, ou en tout cas pour cette petite intervention, et je suis français. Désolé. J'ai essayé de devenir suisse, hein, sincèrement. J'ai essayé à plusieurs reprises de devenir suisse, ils m'ont dit non, c'est mort. Donc j'ai dit bon, je laisse tomber, je reste de l'autre côté de la frontière, je viendrai juste vous soigner. Ok, je suis petit-fils de pasteur, arrière-petit-fils de ce qu'on appelait un évangéliste. Je suis fils de pasteur, frère de pasteur, je vis dans un milieu extrêmement pasteurisé pour ceux qui aiment le fromage. Mais là, il y en a déjà qui se disent, ouais, ok, c'est simplement pour ça qu'il croit à ces sornettes. S'il croit, c'est parce qu'on lui a dit que c'est comme ça que ça marche, et simplement il a gardé ça en tête et il s'est dit que c'est comme ça. Alors, j'aurais pas le temps de rentrer dans ce détail-là puisque c'est pas vraiment le sujet, mais s'il y a une garantie que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que j'ai dû moi-même me poser des questions, j'ai dû moi-même examiner ce qui m'avait été donné, j'ai dû moi-même me positionner et j'ai dû moi-même prendre cette décision. Donc c'est quelque chose qui doit être, alors je vais pas dire effacé, je peux comprendre que certains aient des doutes, mais en tout cas, j'ai cheminé, j'ai fait mes études, j'ai été confronté à énormément de choses différentes et j'ai dû moi-même prendre position sur ce que je croyais vraiment. Ça, je passe de côté. Dans ma famille, la question de la guérison. Donc quand on parle aujourd'hui et quand je vous parle ce matin de la guérison, vous l'aurez compris, ce n'est pas par les antibiotiques, même si ça peut être très utile, croyez-moi sur parole, mais c'est vraiment la guérison par intervention divine, donc ce qu'on appelle la guérison miraculeuse. Et dans ma famille, on va dire qu'il y a eu un événement fondateur, si on veut, je vais aller assez vite, mais je pense qu'il est intéressant que vous le sachiez, c'est que ma grand-mère, qui était donc mariée avec mon grand-père, qui lui était c'est plus aussi automatique aujourd'hui, hein. Non. Donc ma grand-mère, qui était mariée avec mon grand-père, était franchement gravement malade. Alors, de ce que j'ai pu retracer de son histoire médicale, elle avait une cardiopathie rhumatismale qui faisait qu'elle était vraiment plus qu'au bout du rouleau, le cœur ne suivait plus, il allait bientôt la laisser partir. Et donc effectivement, ma grand-mère était non seulement épuisée physiquement, mais moralement, vous imaginez bien que le grand-père et la grand-mère étaient vraiment au bout du rouleau. Donc mon grand-père était croyant, mais il était croyant dans un milieu qui était pour lui en tout cas un milieu de croyance culturelle. Il croyait parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on lui avait dit des choses. Il avait entendu, et puis ça lui plaisait bien, il y avait une ambiance, on venait manger, il y avait des croissants gratuits, et puis c'était vraiment très chouette. Donc il était très content d'aller dans ces rassemblements. Sauf que lui, il passait ses dimanches, il était commerçant, donc il faisait ses comptes, il faisait toute sa compta, il m'expliquait, il faisait vraiment toute sa compta pendant les cultes, mais il vivait pas une vraie foi. Il avait pas une relation, pour lui c'était quelque chose qui était acquis, mais pas vraiment vrai. Ok. Et quand ils se sont retrouvés dans cette situation avec ma grand-mère, là, pour le coup, ils avaient besoin vraiment d'aide. Parce que, pour vous donner une idée, grand-mère avait 29 ans à cette époque-là, et mes collègues de l'époque, que j'ai pas connus, mes collègues lui ont dit, écoutez, Madame Peter Schmidt, sincèrement, pour que vous viviez des fins de jour à peu près heureux, il vaut mieux que vous rentriez chez vous. Donc elle est partie de l'hôpital, c'était vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui du soin palliatif, vous rentrez à la maison, et vous mourrez tranquillement à la maison. Et dans cette situation-là, ils ont commencé à vraiment, vraiment chercher. Et je pense que pour certains, si vous avez déjà eu de vrais, vrais problèmes, que ce soit physique ou autre chose, quand vous avez vraiment un problème, vous allez vraiment chercher. Et pour certains, on va chercher un peu partout. Et grand-père et grand-mère ont vraiment cherché partout. Et un jour, ils ont entendu parler de ce rassemblement. Alors, c'était un rassemblement extrêmement étonnant pour eux, puisque c'était ce qu'on appelait un rassemblement de tziganes évangéliques. Donc, les tziganes évangéliques, c'était quelque chose de très, 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 très atypique. Et pour mon grand-père, santé. Un bon Alsacien du terroir qui n'avait pas tendance à aimer taper dans les mains et chanter, il a trouvé que cette ambiance était détestable. Donc ils sont rentrés là-dedans, ils ont dit « mais c'est n'importe quoi cette affaire ». Et ils sont ressortis, ils sont levés tout de suite pour partir. Et là il y a un monsieur, un pasteur qui était pas loin, qui dit « oh, elle a pas l'air très très bien cette dame ». Il est juste allé les voir, il a dit « écoutez, laissez-moi prier pour elle, et puis on verra si Dieu fait quelque chose ou pas. De toute façon ça vous coûte rien, je vous demande pas d'argent ». Ok. Ils ont dit « ok, c'est gratuit, on essaye ». Donc ils ont essayé. Je vais faire vraiment une histoire courte, elle est sympa parce qu'il y a plein de rebondissements, mais tant pis pour vous. Elle a été guérie. Elle a été entièrement guérie. Donc, je vous dis ça, je reviendrai là-dessus, pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Je suis pas là en train de vous dire, ok, croyez ce que je vous raconte, parce que ce que je vous dis, c'est la vérité. Non, non, c'est une illustration. Aujourd'hui, ma grand-mère a 92 ans. Elle a enterré le grand-père, elle a enterré toute la famille du grand-père, elle a enterré toute sa famille à elle, c'est la dernière survivante. Sa prière désormais, c'est « Seigneur, reprends-moi, j'en peux plus ». Sincèrement. Niveau guérison, là, pour le coup, ça a été extrêmement efficace, puisqu'elle demande qu'une chose, c'est que ça se termine. Je pourrais vous parler de ma tante, qui a été guérie de son cancer du sein. Je pourrais vous parler de mon frère. Vous pouvez trouver son témoignage sur les réseaux, sur Internet, qui a été libéré d'une bouffée de schizophrénie, qui a été vraiment terrible. Lui, son souhait, c'était de sauter de la voiture sur l'autoroute, pour donner un peu le contexte. Je pourrais vous parler de ma guérison, je pourrais vous parler de plein de choses, mais, comme je vous l'ai dit, ces exemples, je le sais, ils sont pas déterminants. En eux-mêmes, des exemples ne vont jamais convaincre personne. Et ils seront impactants, à la limite, ils vont toucher des personnes qui, d'une certaine manière, sont prêtes à entendre. Une personne qui n'est pas prête à entendre, la Bible en parle très bien. Luc 16, verset 31, c'est une parabole qu'on appelle la parabole de Lazare et du riche. Et dans cette parabole, Abraham répond au riche et lui dit, « S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire s'il n'écoute pas les Écritures, s'il ne croit pas à ce qui a été transmis, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait devant leurs yeux. » Donc ça donne une vérité, c'est que le problème, c'est le cœur. C'est notre cœur. C'est-à-dire que, de base, notre cœur est dur, il ne veut pas entendre ces choses. Je vais plus loin, parce que je pense que ça fait déjà au moins 5 minutes que je parle. Donc, je sais pas où il est maintenant, Philippe, il me fait peur. Ah si, c'est bon, je le vois. Il me stresse. J'en suis comme ça. Vous me laissez encore un peu de temps, ça va? J'ai vu. Voilà, je suis comme en Afrique. Oula, installez-vous, les amis. Un estimé collègue, quelqu'un que vraiment j'apprécie de tout mon cœur, m'a dit récemment, et John se reconnaîtra, mais sérieusement, franchement, tu crois vraiment à ces trucs? Donc ces trucs, on était en pleine discussion, la Bible, la réalité de tout ce qui se passe, ok. Tu crois vraiment à ces trucs? Et je me suis dit, ce garçon est brillant, parce que c'est vraiment c'est une excellente question, au fond. Cette excellente question m'a fait réfléchir. Donc merci encore à John. Mais comment une personne de bon sens, quelqu'un qui a une image, une étiquette, on va dire intellectuelle, cartésienne, je veux dire un médecin, c'est quelqu'un qui théoriquement, attention ceux qui me connaissent savent que c'est pas toujours vrai, mais théoriquement c'est quelqu'un qui sait réfléchir, qui sait penser, qui sait dire A plus B égale théoriquement C. Comment est-ce que lui il peut croire à la guérison miraculeuse? Comment est-ce que lui il peut croire sincèrement, et il a l'air d'être sincère dans ce qu'il me raconte, comment est-ce qu'il peut croire que ce qui est marqué dans ce bouquin est la vérité? C'est une remarque, John, je tiens à te le dire, qui a été déjà relevée il y a quelques siècles de ça, par un certain Festus, qui a dit à Paul, qui témoignait de sa foi, Paul qui était un apôtre fameux, et lui a dit, mais tu es fou, Paul, tu es fou, ton grand savoir te fait déraisonner. Donc vraiment, cette notion de raison et de foi est quelque chose qui, depuis que le Christ est venu sur terre, est quelque chose qui est en opposition dans le cœur de ceux qui observent ça de l'extérieur. Et cette incompatibilité, alors je pense que c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Philippe a pensé que c'était intéressant de me faire parler, hein, c'est dire, bah oui, un médecin qui croit Dieu, la guérison, etc., c'est suffisamment bizarre pour que ce soit intéressant. C'est ça, hein ? Merci. Donc voilà, c'est mon côté bizarre qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. Ça me va très bien, c'est grâce à ça que mon épouse m'a choisi aussi. Elle m'a dit, non, tu m'as intéressé, t'étais bizarre, donc finalement, ça, être bizarre, ça a du bon, sachez-le. Mais finalement, cette incompatibilité dont je suis en train de parler, ce lien entre la raison, finalement, la raison pure et la foi, cet antagonisme n'est que superficiel. Si on s'arrête un petit peu pour poser les choses, l'idée même qu'être rationnel, être entre guillemets intelligent et croire est en opposition, part d'un postulat de départ qui, lui, peut être erroné. Alors celle-là, je l'ai écrite, il faut que je la lise parce que sinon je n'arriverai pas à la redire correctement. Opposer le rationnel au spirituel, c'est avoir déjà fait, consciemment ou pas, déjà fait un postulat de départ qui exclut déjà de principe la possibilité du surnaturel. C'est-à-dire que de principe, je me positionne en disant, dans la réalité dans laquelle moi je crois, le surnaturel n'existe pas. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, le miracle n'est pas possible, puisque le surnaturel n'est pas possible. Je vais vous lire quelque chose, alors comme toi, alors après, certains disent que Dieu se cache dans les hasards. Hier, par hasard, on s'est un peu perdu avec ma chérie, on s'est dit, mais où on va se balader? Je suis tombé dans un jardin botanique à Neuchâtel, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et franchement, il est vraiment sympa. Il est vraiment très très chouette. Et là, je regardais un petit peu qu'est-ce qui était noté. Et il y avait un petit encadré qui m'a parlé, entre la chasse aux sorcières et pas mal d'autres choses. Il y avait cet encadré qui était très intéressant, qui disait, ok, aux origines de la vie. Donc là, on est dans le parc de Neuchâtel, c'est pas moi qui l'ai écrit. La vie serait apparue sur la Terre il y a plus de 3,85 milliards d'années, soit à peu près moins de 700 millions d'années après la formation de la planète qui nous héberge. Jusque-là, ok. L'auteur des premières empreintes fossiles d'activité biologique pourrait être une bactérie se développant dans un milieu dépourvu d'oxygène. On pose le décor, tout va bien. Et là où ça m'a un peu percuté quand même, je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être vous parler comme ça m'a parlé. Et la question qui est posée ensuite, c'est mais d'où vient cette étincelle vivante ? Sans doute en sommes-nous réduits pour longtemps encore à des hypothèses. En effet, quelle que soit la théorie que l'on échafaude, une vie créée sur Terre ou un organisme provenant de l'espace, rien n'est résolu. Le problème reste entier. Si la vie est d'origine extraterrestre, comment a-t-elle émergé dans l'univers ? Et si une autre entité, sous-entendu Dieu, et si une autre entité l'avait créé, qui aurait pu établir l'omniscience de cette puissance créative ? À ce stade, telle est la question finale, à ce stade, ne devons-nous pas accepter que le mystère reste entier ? Donc ça, c'est la question qui m'est posée par le parc botanique de Neuchâtel. Je trouvais que c'est une excellente question, vraiment, côté de la Suisse, vous avez des questions qui me plaisent beaucoup. Et là, finalement, je me suis dit, mais attendez, c'est dans l'interprétation et dans la connaissance de qui est Dieu qu'il y a un problème à ce moment-là. Puisque le Dieu dans lequel moi je crois n'est pas un Dieu qui explique les choses de la nature. Le Dieu dans lequel moi je crois est un Dieu qui explique la nature elle-même. C'est lui qui explique la création de l'univers comme on l'entend. Alors attention, il y a du débat sur comment la création est... Ok, ça je veux bien qu'on en discute, c'est pas le sujet. Mais le principe de création divin est quelque chose qui est clair dans la parole de Dieu. Dieu est à l'origine de toute chose. Et à partir du moment où vous avez un Dieu qui est à l'origine de toute chose, alors là pour le coup... Ça peut répondre à une autre question qui me plaît bien. Cette question, je la suis posée quand j'étais ado, et c'était une de ces questions qui m'a fait me dire « Mais est-ce que je crois vraiment en la bonne chose, hein, quelque part ?» Cette question, c'est celle-ci. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Finalement, quand je regarde autour de moi, pourquoi on est là en train de discuter ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on existe ? Est-ce qu'on existe réellement ? Est-ce qu'on est dans la matrice ? Pourquoi pas ? Ça pourrait tout à fait être une simulation d'ordinateur. Ça pourrait être plein de choses. Mais pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Je vous propose une réponse qui se trouve dans un ancien... vieux livre, c'est l'épître de Jean, dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand on interroge la réalité, ça c'est moi, c'est plus Jean, quand on interroge la réalité, l'existence, finalement, cette réponse de se dire peut-être qu'il y a quelqu'un, pas juste quelque chose, mais quelqu'un qui est à l'origine de ce qu'on vit, de la réalité, quand on se pose cette question-là, ben en fait, la réponse devient presque plus rationnelle que son contraire. Pourquoi ? Parce que son contraire, et je ne vais pas faire un débat là-dessus aujourd'hui, je vous rassure, mais son contraire, ce serait de se dire, ok, il n'y a rien, il n'y a personne. Tout ce qui existe, existe parce que ça existe. Et ça existe parce que de la matière naît la matière. Et de rien naît tout. Ok ? Je l'entends, et c'est encore une fois un point de vue qui peut être tout à fait défendable et que je respecte pleinement. Mais si on part de la possibilité tout aussi rationnelle que non, si tout ce qui existe et qui semble avoir tellement de sens autour de moi, parce que mine de rien les choses, quoique l'être humain a mis un peu son grain de sel dans tout ça, mais les choses sont quand même bien réglées autour de nous. Je veux dire, pour ceux qui travaillent dans la santé, même quand on se rend compte de la violence de la maladie, un corps humain, c'est quelque chose qui est incroyable. Pour ceux qui ont étudié une cellule, ils vous diront effectivement une machinerie telle que la cellule, c'est quand même quelque chose qui est... Ok, je me permets d'aller plus loin. À la question donc, est-ce que je crois en quelqu'un ou pas, je trouve qu'il faut probablement plus de foi pour croire en personne qu'en quelqu'un. C'était mon choix. Faut-il donc accepter que le mystère reste entier, si finalement on ne peut pas vraiment savoir ? Faut-il l'accepter, comme ça a été demandé par le parc botanique ? Moi je dirais que non. Moi je dirais que non, parce que la Bible nous donne une excellente nouvelle. On n'est pas obligé de rester coincé sur cette question-là. L'excellente nouvelle, c'est encore mieux dit que par moi, dans Matthieu 7, versets 7 à 8, « Demandez et on vous donnera. Frappez, cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » Dans Jean 14, versets 13 à 15, Jésus lui-même dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Il parlait d'un puits. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors, quand cette prise de conscience de la réalité du divin devient réalité pour nous, c'est alors ma perception même de la réalité entière qui change. Vous allez me dire, il a pris un sacré détour, mais je pense que c'était quand même intéressant de le rappeler. J'en suis à combien de temps ? T'as perdu le fil, c'est bon. C'est excellent parce que je n'ai plus que 20 pages. On est raccord. Mais alors donc, pour revenir sur notre sujet, puisque finalement on parle de la question du miraculeux, on parle de la possibilité du miraculeux, de la guérison miraculeuse. Est-ce qu'un être qui a créé toutes ces choses, est-ce qu'un être qui a ordonné toutes ces choses n'est pas capable d'intervenir dans ce qu'il a créé ? Est-ce qu'on peut exclure le fait que quelqu'un qui a fabriqué une voiture puisse aller la réparer ? N'est-ce pas ? Ça a été encore mieux dit par un contradicteur qui parlait avec un certain John Lennox, je ne sais pas si vous le connaissez, un monsieur qui mérite d'être connu. Il est professeur de mathématiques à l'université d'Oxford, un croyant sincère et fervent. Et un monsieur lui disait un jour, parce qu'il aime bien faire des débats, voilà. Il lui disait un jour, mais sincèrement, professeur, vous êtes professeur de mathématiques, comment est-ce que vous pouvez croire qu'un type comme ce Jésus se soit baladé sur l'eau ? C'est n'importe quoi. Tu crois vraiment à ces choses-là ? Je paraphrase, pour revenir à John. Et là, le professeur lui disait, mais d'une certaine manière, si je crois que ce même Jésus a créé cette eau, est-ce qu'il est vraiment impossible pour celui qui a créé l'eau de marcher dessus ? C'est en changeant le paradigme de base, c'est en changeant le postulat de base, qu'effectivement les choses deviennent tout à fait possibles, et plus que possibles, tout à fait probables. Je m'étale un petit peu trop. Si Dieu existe et que la Bible parle de lui, alors la Bible parle de son intervention dans notre réalité tout au long des Écritures. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous voyez Dieu mettre son doigt et sa main sur le parcours de l'humanité. L'homme est libre, mais Dieu intervient. La Bible est même l'histoire d'une relation perdue que Dieu cherche et a rétablie en Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est vraiment encore le cas aujourd'hui ? Puisque finalement, si certains sont venus aujourd'hui, c'est peut-être en se disant « ben, moi, ça m'intéresserait si c'est vrai. » Donc, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Alors, je vais revenir sur des exemples, parce que je trouve que même si ce n'est qu'illustratif, c'est intéressant. Mais je peux vous parler de cette dame pour laquelle j'ai eu la grâce de prier il y a quelques 2-3 semaines de ça, qui vient me voir et qui me dit « Ok, moi, j'ai un problème. Cette semaine, on a fait une échographie de mon sein. On a trouvé une tumeur. J'ai déjà eu un cancer du sein. Je sais ce qui va se passer par la suite. Je veux pas que ça recommence. » On prie ensemble. Je prie pour cette personne qui doit avoir la semaine suivante une IRM de confirmation. Pour ceux qui connaissent l'imagerie, j'en connais dans la salle, effectivement l'IRM a tendance à être un peu plus fine que l'échographie, on ne retrouve rien sur cette IRM. Vous n'êtes pas obligé de me croire, c'est illustratif. ce monsieur que je rencontre et qui me dit, ok, moi j'ai un problème, je suis anxieux, je n'en peux plus, je n'arrive plus à dormir. Je me retourne sur moi-même, ma situation actuelle ne me permet plus d'être en paix. Prie pour moi. On prie pour lui et je reçois un message de sa part qui est, il en pleure, alors pour le coup plutôt positif puisque c'est des larmes de joie en disant, je suis complètement libéré de cette anxiété. Je ne sens plus ce poids, je dors tranquillement, je dors comme un bébé, j'ai laissé mes médicaments, je suis complètement libéré. C'est illustratif, vous n'êtes pas obligé de me croire. Témoignage The Rencontre, qui est un événement qui a lieu régulièrement dans l'église à Mulhouse. Donc là, cette année, il y avait quand même un peu plus de 2000 jeunes qui se sont rencontrés et j'ai récupéré un des témoignages d'une jeune fille. Elle disait, ok, moi j'ai eu un syndrome rotulien qui touche mes deux genoux, donc une douleur inflammatoire au niveau des genoux, qui peut être très handicapant. Le dernier jour, une parole a été donnée pour ce problème spécifique. J'ai entendu un bruit dans mes genoux et plus de douleur, au point où je n'ai pas eu besoin de m'asseoir une seule fois pendant la durée de la louange. C'est signé Rebecca. Bon, je ne sais pas qui c'est. Donc à la question, est-ce que Dieu aujourd'hui agit encore ou est-ce que c'était réservé aux apôtres peut-être? Et bien, la réponse de Chloé, c'était oui, il le fait encore. Parce que comme Léna l'a dit, il est dans nos cœurs. Il est présent, et je sais qu'il est présent au milieu de nous, et je suis persuadé d'une chose, c'est que si je suis là en cet instant, c'est parce que lui est présent au milieu de nous. Comme Jésus, et là je parle aussi et peut-être même encore plus à mes frères et sœurs qui sont déjà investis avec le Seigneur, mais Jésus a été revêtu du Saint-Esprit au moment de son baptême. Chacun de ceux qui l'ont accepté, chacun de ceux qui le suivent sont eux aussi remplis du Saint-Esprit. Dans Actes 2, versets 3 à 4, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans Marc 16, versets 15 à 20, c'est l'ordre de mission de Jésus lui-même. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, au nom de Jésus. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Heureusement, on en a moins besoin ici aujourd'hui. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est l'ordre de mission de Jésus lui-même. Mais alors pourquoi tout le monde n'est pas déjà guéri? Puisque finalement, s'il suffit de mettre la main sur quelqu'un et dire « Au nom de Jésus, je veux que tu sois guéri, il est guéri », j'aurais probablement plus de boulot aujourd'hui et tous mes collègues avec. J'aurais trouvé autre chose à faire. De toute façon, je ne vais pas vous mentir, je préfère ce que je fais ce matin que ce que je fais en semaine. Quoique j'aime mon métier, sachez-le de tout mon cœur. Mais attention à un piège qui, à mon sens, est un piège qui nous attend à nous tous, qui espérons en Jésus, qui espérons en la guérison. Parce que je sais que certains parmi vous, pour avoir entendu certains témoignages, espèrent en la guérison. Et elle est légitime. Mais l'espérance en la guérison ne doit pas être l'espérance en un dû. Ce n'est pas un automatisme. C'est quelque chose qui est un don. C'est par la grâce de Dieu. C'est pas parce que Dieu est un Dieu bonbon, une machine dans laquelle on met, c'est des francs suisses ici, donc 5 francs suisses, et pour lesquels vous aurez en fonction de ce que vous donnez, telle ou telle intervention. Parfois, nous sommes notre propre obstacle à la guérison. Un petit passage pour illustrer ça. Dans Marc 6, versets 5 à 6, Jésus, qui est dans sa patrie, il est chez lui, à Nazareth, et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. On revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, le problème, c'est le cœur de l'homme. Le problème, c'est le fait d'accepter de croire ou de ne pas croire. C'est une décision. C'est quelque chose qui doit d'abord venir de nous-mêmes. Et parfois simplement, Dieu a d'autres projets. Il a d'autres projets que de nous guérir maintenant instantanément. Je vais vous parler de Marie-Odile que j'ai revue récemment avec ma chère et tendre épouse. Marie-Odile qui est maintenant tétraplégique à cause d'une tumeur dans sa moelle épinière. Et elle est maintenant tétraplégique depuis 2004, je crois. On est en 2024, ça va faire 20 ans qu'elle est assise dans un fauteuil. Une femme de foi, une femme qui aime le Seigneur de tout son cœur, et une femme qui a prié, qui prie, et qui prie encore aujourd'hui pour sa guérison. Et elle me disait, tu sais, Jonathan, au début, je me demandais quand même, mais je crois en ce Dieu qui peut faire des miracles et guérir. Pourquoi est-ce que moi, il ne me guérit pas? Pourquoi est-ce que j'ai vu, constater qu'effectivement, c'est la réalité, mais moi, il ne me touche pas? Et là, elle me disait, en fait, aujourd'hui, j'ai bien compris pourquoi. Et je la paraphrase, mais le témoignage de la foi de Marie-Odile, qui continue à croire aujourd'hui, alors même qu'elle est assise depuis 20 ans dans le même fauteuil, le témoignage de sa foi, malgré sa condition, est la démonstration magistrale que la foi de Marie-Odile ne dépend pas de ce que Dieu fait pour elle, mais ça dépend exclusivement de qui Dieu est pour elle. Elle peut rester dans son fauteuil toute sa vie, elle remerciera le Seigneur jusqu'à ce qu'elle le rencontre. Et elle sait une chose, c'est qu'un jour elle aura un corps glorifié. Donc Dieu est souverain, il est bon, et il sait ce qu'il fait, pourquoi. Nous, notre rôle, c'est simplement dans l'humilité de faire ce qu'il nous a dit. Il nous a dit prier pour les malades, après c'est lui qui agit. Moi je suis personne, Philippe n'est personne. Ceux qui peuvent prier et qui prieront probablement aujourd'hui ne sont personne. C'est Dieu qui est tout. Conclusion. C'est le dernier paragraphe. Conclusion. Mais alors pourquoi? Pourquoi Dieu guérit? Ah, c'est une question que je me suis réservée en dernier parce que je trouve que c'est peut-être la plus importante. Pourquoi est-ce que Dieu guérit? Ben, je vais redire ce que William a dit, et William l'a très très bien dit. Bah parce qu'il nous aime. C'est beau, non? Bah parce qu'il nous aime, tout simplement. Hein, quand je vous dis que les enfants comprennent beaucoup plus vite que nous, c'est la vérité, croyez-moi. Et en effet, c'est la description de qui est Dieu. Dieu est amour. C'est pas simplement qu'il aime comme nous on peut aimer et ne plus aimer, et aimer de nouveau et ne plus aimer. Non, Dieu, c'est sa nature. Il est amour. Je vais citer la parole de Dieu. Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et dans son amour, ce Dieu qui est compatissant, riche en bonté, lent à la colère, a un cadeau et a pour l'homme un trésor bien, bien, bien plus grand que la guérison du corps. C'est cette fameuse guérison du cœur. Depuis tout à l'heure, sous-jacent en filigrane, vous avez bien compris que le problème, c'est pas le problème de la guérison du corps. Que Dieu guérisse ou pas, c'est la guérison d'abord du cœur. Et pourquoi Dieu veut guérir? Ézéchiel 36, verset 26, je me suis rendu compte que la Bible dit tout ce que je voulais dire de manière beaucoup plus claire que moi. Et je vous donnerai, c'est Dieu qui parle, et je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. La guérison pour la guérison n'a aucun sens. La guérison pour la guérison, tous les hommes, toutes les femmes qui ont été guéries par le Seigneur lui-même sont morts aujourd'hui. Amen. Tous ceux qui seront guéris, tous ceux qui ont été guéris, ont fini par le rejoindre, on rejoint l'éternité. La guérison divine, c'est une révélation, c'est d'abord une rencontre, c'est Dieu qui donne la chance à quelqu'un de dire « Ok, pour toi j'agis, mais j'agis pour que tu saches que je suis là, pour que tu comprennes que je sois là, que je suis avec toi. » C'est la réconciliation entre Dieu et les hommes qui est le cœur de la guérison divine. Je vais laisser Philippe conclure si tu veux. Est-ce que je peux prier avec vous? J'ose? J'ai entendu un oui franc et massif d'une personne, ça me suffira largement. Je me contente de peu. Père éternel, c'est avec beaucoup d'humilité, Seigneur, que je suis aujourd'hui présent devant cette assemblée, Seigneur Jésus, ô combien éminente. Et tu sais, Seigneur Dieu, que chaque personne qui est assise ici, Seigneur Jésus, représente pour moi un trésor. Père éternel, si je suis ici aujourd'hui, c'est simplement pour partager ce que moi j'ai reçu. Et si je l'ai reçu, de quoi est-ce que je peux me glorifier? De rien. Je veux simplement témoigner de ce en quoi je crois. Témoigner de ce en quoi je crois, parce que je crois que ce trésor que tu veux apporter à l'humanité, trésor du salut de l'âme, trésor simplement de la vie éternelle qui est une vie qui commence ici, aujourd'hui. Ce trésor-là, tu le proposes à chacun d'entre nous. Et je te loue et je te rends grâce, Seigneur, que tu agiras encore aujourd'hui, dans les jours qui viennent, dans les semaines, les mois qui viennent, pour guérir les corps, pour guérir ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur esprit. Mais Seigneur Jésus, d'abord et avant tout, pour guérir ces cœurs, Seigneur, qui sont des cœurs de pierre et qui ont besoin de te rencontrer. Sois béni, Père éternel. Amen.